Non mais c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de traces où tu es sur du parcours qui n'est pas du tout
conventionnel. Classique,
quoi. Conventionnel, quoi, du tout. Ouais.
Ah ben remonter là quand on avait 5, on est remonté aux Bermudes, jusqu'au golfe du Saint-Laurent, tout le Saint-Laurent jusqu'au lac Ontario.
Et redescendre jusqu'à New York.
Et descendre par l'intérieur, pardon.
Vous êtes passé par l'intercostal là?
Non, on est passé par le canal aérien, qui n'est pas l'intracostal.
Donc ils sont dématés.
Ensuite,
de l'Ontario.
Et ensuite l'Hudson. L'Hudson, est, je ne sais pas s'il fait partie d'Intracostal. Mais après, on a suivi, quand on est sorti de New York, on pouvait prendre l'Intracostal, mais moi ça ne me disait pas, parce qu'il y a des endroits où théoriquement on fait des matières, on n'était pas sûr qu'on puisse passer sous tous les ponts. On est rentré une fois dans l'Intracostal. Simplement pour aller passer dans une marina. Et puis à Miami aussi, c'est un intercostal. On n'a pas utilisé le canal. Parce que d'abord, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Il y a des moments où c'est très bien, c'est sympa, etc. Mais tu vas moins vite. Et puis tu bouffes du gasoil parce que tu fais du voile.
Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur Kea avec Dom et Chris.
Ouais, vous avez bien entendu. C'est pas Kea, mais Kea. On a rencontré Kea encore lors de notre halte à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais Saint-Laurent-du-Maroni qu'on a quitté, on est maintenant à Martinique et on a retrouvé l'équipage de Kea ici à Martinique. Et on s'est empressé de venir les interviewer parce que Kea, c'est quand même assez particulier. On va vous raconter ça tout au long de ce podcast. Et maintenant, on va vous laisser vous présenter l'équipage de Kea. On est avec...
Dominique
et Christine.
Dominique et Christine de Kea. Est-ce que vous voulez bien vous présenter vraiment, ouais. Quoi, votre profil, quoi.
Ça commence.
Présenter vraiment, moi je viens juste de changer de...
D'année.
Donc j'ai 73 ans, donc plus très jeune. Et ben, je navigue depuis une quinzaine, enfin même 17 ans à peu près. On est parti en 2007. Donc ça fait,
un certain nombre d'années.
Ça fait un certain nombre d'années.
Avec ce même bateau. Et ce bateau, voilà. C'est quoi?
Et ce bateau, c'est un outre-mer, un catamaran de 45 pieds, qui est hyper fiable, qui navigue, je dirais, comme tous les autres catamarans, parce qu'on est chargé, on est un peu lourd et que les performances en sont réduites, mais aussi parce qu'on n'a pas l'intention de se faire peur. Et que d'autre part, la façon d'avoir un bateau qui tient la route, c'est d'éviter de faire n'importe quoi avec et de le casser. On a suffisamment de problèmes ponctuellement pour ne pas ajouter.
Pas rajouter, voilà. Voilà. Alors quand tu dis que tu navigues depuis 2007, c'est vraiment de naviguer un voyage, quoi. On est d'accord,
ouais,
quoi.
Totalement.
C'est pas que tu as découvert le bateau en 2007, quoi.
Alors,
pas loin.
J'ai quasiment découvert le bateau en 2007. C'est-à-dire que j'avais une expérience de navigation qui était à peu près d'un mois de navigation sur toute ma vie, qui se répartissait en une semaine, tous les deux ans ou trois ans sur le bateau d'un copain, mais sans aucune... Donc je barrais ponctuellement, mais quand tu as un skipper qui est à côté de toi, tu prends aucun risque. Mmh. Tu sais que si tu fais la moindre erreur, ben, il est là, et que pour les mouillages, c'est lui qui prend, qui décide où tu vas, ce que tu fais, etc. Mais donc aucune expérience, et en plus, à l'époque, je mettais le pied sur un bateau et j'avais mal au cœur. Mais j'avais l'intention depuis l'âge de 20 ans, 21 ans, j'étais attiré par le bateau, j'avais failli en construire un en famille, puis ça s'est pas fait, enfin le projet s'est fait, mais moi j'y ai pas participé. Et en réalité j'avais toujours ça
en tête.
Donc le seul inconvénient c'est que j'avais mal au cœur, j'ai fait du deltaplane, j'avais mal au cœur, j'ai fait de la planche à voile, j'ai eu mal au cœur, je faisais du bateau, je montais ponctuellement sur une demi-journée pour les copains à Marseille pour aller au Frioul, j'avais mal au cœur, donc c'était quand même un truc rédhibitoire.
Ouais, voilà. Mais l'envie
si ce n'est que l'envie était là,
il y avait une sacrée envie d'y aller.
Et que le principe du bateau me plaisait bien. Et puis un beau jour, j'ai lu un article disant que plus on vieillissait, moins on avait mal au cœur. Et du coup, je me suis dit, banco, c'est bon pour moi. Voilà.
Et Christine, maintenant, ouais.
Alors moi, la navigation, je n'y connaissais absolument rien il y a 4 ans. Moi, je suis infirmière, donc je vivais à Tahiti. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs.
Voilà, toi tu es nouvelle sur l'aventure quoi.
Moi je suis nouvelle sur l'aventure, voilà. Je suis sur Kea depuis un peu plus de 4 ans maintenant. À Tahiti, on a commencé à vivre dessus, mais on naviguait peu, ou dans les îles, ou dans les Tuamotu, donc peu. Et donc là, vraiment, l'aventure a commencé quand on est parti, c'est-à-dire le 1er septembre 2022.
Il est parti pour où? Alors, c'était quoi votre circuit?
Alors là, c'était quand même assez exceptionnel pour quelqu'un qui n'a jamais navigué, parce qu'on est parti vers le sud, vers les Australes. Donc les premières grosses navigations, bon, Christine avait fait quelques fois des navigations de nuit.
Une ou deux comme voilà. Ça pour s'habituer. Mais bon,
mais moi, quand on naviguait au Tuamotu, quand on allait dans les îles sous le vent, et là on était parti pour 500 000. Donc, et théoriquement sans intention de revenir sur Tahiti, puisque notre objectif c'était de rallier la Patagonie. Et ensuite de faire une incursion en Antarctique. Donc c'était parti quand même pour des navigations dures. Il fallait.
Alors je pense qu'il y avait une part d'inconscience de ma part, mais ça m'a toujours fascinée. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, avant même que notre histoire commence, je lui avais posé la question et je m'en rappelle, hein, il était assis là et. Je lui avais dit, mais ça fait combien de temps que tu navigues et comment on fait pour naviguer comme ça pendant des années et voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a... Mais sans me dire, un jour, je vais naviguer. Mmh. Je trouvais ça fascinant, mais sans me dire, bon, je voulais bien faire des petites sorties, mais ça s'arrêtait là. C'était pas du tout un objectif dans ma vie.
Alors, pour te rassurer, moi, c'était pareil. Et c'est quand j'ai rencontré Karine que elle m'a dit, mais si, on peut partir naviguer. Mais ça sera l'affaire de notre podcast.
Ah oui, parce qu'il faudra bien vous interviewer tous les deux aussi.
Donc ce projet Antarctique, parce que là je pense que ça va intéresser beaucoup de monde.
Ouais.
Comment a pu naître un projet comme ça? Allez, en Antarctique avec une catamaran outre-mer, on rappelle, qui est en fibre de verre.
Alors, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés en 2019, lui il m'a dit, j'ai un projet, je voudrais absolument faire les canaux de Patagonie, après continuer. L'Antarctique n'était pas du tout au programme. Et en se documentant, en regardant, on se voyait que l'Antarctique, c'était pas loin. On se disait, oh là là, ça serait sympa quand même d'aller se faire un petit tour dans la péninsule antarctique. C'est l'occasion, on n'aura plus jamais l'occasion de retourner dans ces contrées. Donc, au début, on pensait prendre un charter et et descendre en Antarctique, pas avec Kea, mais avec un autre bateau. Et voilà. Et après, je te laisse pour continuer.
J'irai, tout le voyage a été construit. À partir de rencontres. C'est-à-dire que la seule vraie décision de direction de navigation, c'était d'abord pas faire comme tout le monde, et d'autre part, le peu de bouquins que j'avais lus sur les navigateurs qui faisaient le tour du monde ne parlaient jamais de l'océan Indien. Donc en réalité, j'ai dit, moi, je pars par l'océan Indien. Ce qui a été critiqué parce qu'on dit mais un Qatar Méditerranée, c'est complètement débile, partir vers l'Est, c'est complètement débile, etc. etc. Mais moi, je me suis documenté, j'ai regardé.
Pas faire comme les autres.
Ouais, c'est l'envie de vraiment pas faire comme les autres. Et donc, j'ai vu que c'était possible, j'ai regardé les météos, les courants, etc., etc. Et donc, je suis parti côté océan Indien pour faire l'Indien avant toute chose. Et ensuite, donc, j'ai fait le tour, enfin, on est allé donc jusqu'en Inde, après on est allé aux Maldives, on est allé au Chagos, on a fait l'Afrique du Sud. Et quand on a traversé sur Rio, et ensuite on est remonté le long du Brésil et on est passé, pas à Saint-Laurent-du-Maraudi, mais on était aux îles du Salut et puis après à Kourou. Et à Kourou, on a rencontré deux bateaux qui revenaient d'Antarctique. Et du coup, on a discuté avec eux, etc. Et là, petite graine est semée.
La graine a été semée là, oui.
Et donc, moi, j'ai gardé ça dans ma tête en disant, c'est un endroit où j'aimerais bien aller. Visiblement, en Kata, ce n'est pas vraiment le bateau idéal, mais on verra bien. Et donc ça, c'est resté planté. Au même titre que j'ai rencontré quelqu'un à Madagascar qui m'a parlé des fêtes magnifiques à l'île de Pâques. Donc j'ai gardé ça dans ma tête en sachant qu'il fallait y aller début février. Et que voilà, mais j'y suis allé 2 ans plus tard, début février, on a participé aux fêtes. J'ai rencontré des gens aux Marquises. J'avais l'intention toujours de sortir des routes classiques et d'aller au Japon. Et ces personnes-là arrivaient de faire un tour du Pacifique Nord. Et donc, ils m'ont donné plein de conseils, plein de trucs, etc. Donc, du coup, j'ai eu ça dans ma tête. Et quelques années plus tard, j'ai fait ce circuit-là. Et donc, pour revenir à l'Antarctique, c'est resté dans ma tête en disant, ben, on va en Patagonie. Christine a l'intention, enfin, accepte de venir avec moi dans des contrées. Parce qu'il y a quand même, je ne sais plus, 4000 milles entre les Australes et Puerto Montt. Donc, c'est des navigations de entre 20 et 30 jours. À partir du moment où on fait ça et qu'elle l'accepte, c'est bon, quoi. On va gérer.
C'est très intéressant ce que tu viens de nous raconter, moi, je trouve, par rapport à la construction du voyage. On va pas dire d'un voyage, mais en tout cas de ton voyage à toi. Mais on le retrouve, ça déjà nous on le retrouve nous sur Créa, et puis on le retrouve en fait chez tout le monde. Je crois qu'on ne peut pas faire un cadre pour un voyage, quoi, parce que ça se modifie au fil des rencontres.
Exactement.
C'est assez récurrent déjà sur les récits qu'on a.
Après ça c'est vrai, si tu n'as pas de date butoir.
Ah oui.
Ouais, tout à fait.
Ah, totalement.
Oui, ça c'est sur les bateaux qui eux sont partis au long cours vraiment, quoi, et qui n'ont pas une date.
Totalement, c'est comme on est allé, j'avais un bon copain qui est allé au Québec 2 ans avant que je parte. Je me suis dit, tiens, Québec, hop. Et du coup, on a remonté tout le Saint-Laurent jusqu'au lac Ontario. Et voilà, donc c'est vraiment des trucs qui sont des pures rencontres ou discussions avec des navigateurs qui sèment des petites graines et tu te dis, pourquoi pas moi ? J'ai bien envie d'aller dans ces contrées-là.
Non, mais ce qui est rigolo, c'est que déjà, la Patagonie, tout le monde lui dit, les canots de Patagonie, c'est pas facile, etc. Mais la Patagonie par rapport à l'Antarctique, c'est du beurre. Hein.
Donc, cette graine est semée, elle a bien germé.
Bah, oui, elle a germé et en plus... Du coup,
et tu te retrouves, toi
à Tahiti, c'était le moment du Covid, ouais. Donc il y a des gens, il y a beaucoup de bateaux qui sont retrouvés là-bas. Coincé. Et puis on a discuté avec des gens, puis on a parlé de la Patagonie, on a discuté un peu d'Antarctique comme ça.
Qui l'avait déjà fait.
Et puis on est tombé sur des gens qui l'avaient déjà fait, qui connaissaient très bien le truc. Et là, on est tombé sur quelqu'un qui faisait du charter là-bas, qui faisait du charter en Alaska, etc. Ouais. Et donc j'ai discuté avec lui en lui disant, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est raisonnable? Non, j'étais allé le voir exactement pour lui demander s'il connaissait pas des gens qui faisaient du charter et pouvoir tomber sur une équipe sympa. Tu vois, parce que c'est toujours un peu l'angoisse de se dire, bon, on va tomber sur quel type d'équipage, est-ce qu'on va être pris de haut, est-ce qu'on va être pris pour des touristes lambda, etc. etc. Et moi, je n'ai pas du tout l'envie d'être considéré comme ça. Et puis au bout du compte, je lui avais expliqué ce que j'avais fait comme trajet. Il m'a dit, mais attends, arrête, prends ton bateau, vas-y. Et j'ai dit, mais tu crois? Il me dit, bah ouais, d'abord, t'as pas de problème de... Théoriquement, tu n'as pas de problème d'équipage, on verra après. Mais ton bateau, tu as fait l'Alaska, tu as fait les glaciers, tu es capable d'y aller et ton bateau va tenir le choc pour aller là-bas. Voilà.
Voilà. Dis, bon. Première grosse graine, deuxième grosse graine qui est plantée. Et là, ça germe.
Bon, puis après, tu essayes de rencontrer des gens qui ont fait l'Antarctique et voilà. Et puis. À Tahiti, j'ai eu la chance de bosser ponctuellement sur le bateau de Philippe Poupon, donc Fleur Austral. Et donc, je l'ai rencontré physiquement à un moment, on a passé 15 jours ensemble, et là, j'ai rediscuté de l'Antarctique en lui disant, mais tu penses que c'est raisonnable, etc. Il m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Donc, il m'a donné plein de conseils sur faire des cloisons semi-étanches, sur la façon de procéder. Il m'a indiqué des mouillages, il m'a montré sur les cartes ce qu'il avait fait, etc. Parce que c'est l'inconnu, tu n'as pas de bouquin qui te présente les mouillages en Antarctique, comment il faut que tu y prennes, etc. Donc, ça a été un plus. Il nous a filé des combis étanches. Des combinaisons de survie. Vraiment, s'est senti...
Épaulé.
Épaulé et en confiance.
Ouais. Voilà.
Le truc supplémentaire que j'ai fait, c'est que j'avais une expérience de l'Alaska, où on est allé près des glaciers. Et là, on a commencé à esquinter les coques, parce que pousser les glaçons avec des étraves... Ça tenait pas vraiment le choc, quoi. C'était, on voyait là quand même qu'il y avait une fragilité. Et en Alaska, on avait du temps, c'était des petits growlers, c'était pas ce qu'on a trouvé après en Antarctique.
Un growler, tu peux expliquer ce que c'est un growler?
Alors les growlers, c'est des bouts de glaciers. En réalité, c'est des glaçons qui font entre 20 cm, enfin 10 cm voilà. De hauteur, et donc 40 ou 50 cm en dessous de l'eau.
Voilà.
Donc
on ils pas font sur
quelques
iceberg, kilos.
On
n'est pas sur un iceberg. Quoi.
Non,
et puis
pas iceberg,
c'est des
gros
trucs
glaçons
qui peuvent faire jusqu'à 20 cm, 30 cm de haut, 1 mètre carré de surface, et donc c'est 200 kg à pousser. Donc même si tu es un demi-nœud, les coques, elles n'aiment pas vraiment. Quoi. Donc c'est, voilà. Et un kata, c'est plus difficile de viser à côté du glaçon parce que tu as les deux coques et tu vas en éviter un, mais tu ne vas pas éviter celui qui est sur l'autre coque. Donc j'ai fait ce que j'ai appelé des sabots. En réalité, j'ai fait des protecteurs d'étrave. Donc il y avait une espèce de coque en composite avec Kevlar, carbone.
Oui, parce qu'on n'a pas précisé au début, c'est ton métier toi en fait, hein, à la base.
C'était mon métier, ouais, de travailler de composite. Donc j'ai fait une espèce d'amortisseur avec 10 cm de mousse hyper dense et deux coques, une coque adaptée parfaitement à l'étrave et une coque extérieure qui pouvait résister aux impacts de glaçons. Et puis la mousse au milieu qui permettait de faire un amortisseur. Et ça s'est révélé hyper confortable pour
pousser
les étraves,
un peu de la glace,
pour pousser de la glace.
Mais là on n'était que sur l'avant du bateau. Quoi,
que sur l'avant du bateau, ouais, sur 30 cm de hauteur et 50 cm de large. Donc vraiment l'impact sur la glace.
Quelle est la bonne saison pour partir là-bas? Est-ce qu'il y a une bonne saison?
Oui, c'est en été, c'est l'été. Ben, ça commence, alors t'en as qui partent dès fin décembre.
Même début décembre.
Même début décembre, ouais. De décembre, janvier, février, jusqu'à fin mars.
4 mois.
Voilà, à peu près, c'est les 4 mois. Il fait jour, en plus, l'avantage.
Plus tu vas tôt en saison, plus il fait jour.
Voilà.
C'est-à-dire qu'au mois de décembre, là, t'as pas de nuit, quasiment.
Ouais.
Janvier,
ça, c'est appréciable.
T'as une petite ombre pendant quelques heures,
deux heures
à peu près.
Février,
les nuits sont un peu plus longues, de peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais c'est des nuits.
C'est la pénombre.
Par contre, en mars, ça commence à être plus dur. Voilà.
Et vous y étiez alors de quelle période à quelle période?
On est parti le 10 janvier d'Ushuaïa. Et on est revenu, ça nous a pris un mois et demi, six semaines. Hein.
Donc on est revenu fin février quasiment.
Mmh. Fin février.
Et est-ce qu'il y a une réglementation spécifique pour aller là-bas? Comment ça se passe?
Alors ça, c'est le truc le plus contraignant.
Pas contraignant, enfin c'est bah plus oui, c'était quand même.
C'est contraignant, c'est-à-dire qu'il y a un dossier, il y a les TAF, donc c'est les terres antarctiques australes françaises, territoire, voilà, qui t'imposent une réglementation. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation internationale, et comme on est français, on dépend de l'organisation française qui est en.
À La Réunion.
À La Réunion.
À La Réunion.
Et donc, tu as un dossier à charger sur Internet, et tu as des questions
auxquelles
tu.
Un dossier à remplir.
Quand tu connais rien, quand tu sais pas, tu essayes de trouver sur Internet les réponses, etc. C'est pénible à faire. La première fois, c'est hyper pénible parce que tu sais pas quoi répondre. C'est mal foutu. Par contre, ça a eu un gros avantage.
Ouais.
C'est de te faire prendre conscience parce que tu répètes 10 fois, 15 fois, qu'est-ce que tu as prévu. Si tu as une fuite de gasoil, si tu as un problème de hauteur, si tu as un problème avec ton bateau, quels sont tes systèmes de sécurité, quelles sont tes actions à mettre en œuvre.
Si tu as un accident à bord, est-ce que tu as faire une fiche technique de tel accident, enfin, ta trousse de pharmacie, bon, j'en parle parce que ça c'était mon domaine.
Ça te fait réfléchir à différentes situations.
Exactement.
À l'écologie, voilà, tout ce que tu
gros
dois.
Gros problème d'écologie. Voilà.
Il faut que tu nettoies ton annexe, tu désinfectes ton annexe, tes bottes. On te dit à chaque fois de rincer tes bottes entre chaque île. Enfin, on te fait prendre connaissance et on te dit tout ce qu'il faut que tu fasses pour préserver l'écosystème antarctique. Donc ça, et puis l'évacuation des déchets, évidemment, tu dois tout conserver à bord. Pas question de balancer même tes déchets végétaux à la mer, à part à 2000 des côtes, voilà, quand même. Donc,
et puis tu signes que tu ne vas pas faire de pêche, tu ne vas pas faire ci, il y a des endroits qui sont interdits au débarquement, voilà. Il y a des endroits qui sont limités au débarquement, donc tu ne dois pas aller dans telle et telle zone. Quand il y a des gros cruiseurs qui descendent à terre, il ne faut pas qu'il y ait plus de 100 personnes à terre, donc tu dois attendre que les gens partent de cette zone-là pour pouvoir aller à terre. Quand tu vas dans des bases, il faut demander une autorisation 24 heures avant pour savoir s'ils acceptent que tu descends à terre et que tu ailles les voir. Donc ça, c'est réglementation.
Jaula de uma fera derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lata beija-flor, no chão, na cama, de fraque, de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor. De qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor.
Donc là, vous êtes à Ushuaïa, vous avez rempli votre dossier, l'accord est arrivé, vous avez un équipier, donc c'est le départ vers l'Antarctique.
Ouais.
Comment ça s'est passé, la météo, pour traverser le canal?
Alors, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a du temps, contrairement au charter. C'est-à-dire que nous, on peut, la météo, on l'a observée pendant des mois, l'année d'avant, etc., ouais. de voir un peu comment ça se passait. Et on voit qu'il y a toujours des dépressions qui passent d'une façon régulière, mais il y a toujours un petit créneau de 3 jours où ça se calme un peu.
D'accord. Et combien il y a de milles du coup d'Ushuaïa jusqu'au...
Comment il s'appelle d'ailleurs ce détroit ?
Le Drake. C'est le passage, ça s'appelle un passage du Drake.
Donc nous on avait du temps, mais en réalité ça s'est bien goupillé parce que l'équipier est arrivé et 2 jours plus tard on savait qu'il y avait un créneau qui
la
était
bon. La fenêtre était bonne, ouais. Ouais. D'accord, ouais.
Donc il y a des copains skippers qui sont partis une journée avant nous, une journée et demie avant nous. Nous on a suivi parce que on était moins à la
Tu dois faire tes papiers de sortie.
Oui, tu dois faire tes papiers
de sortie. On doit passer par Puerto Williams. Tu es obligé, tu ne peux pas partir directement de Ushuaïa.
Enfin, c'est la susceptibilité des Chiliens.
Ouais, la guerre entre le Chili et l'Argentine.
C'est mieux d'aller faire une sortie, entrée-sortie au Chili quand tu vas
en
Antarctique.
Mais tu peux
y aller autrement directement d'Ushuaïa où c'est l'Argentine. Mais du coup, théoriquement, tu es obligé de contourner certaines îles, d'aller plus loin pour pas passer près du Cap Horn, etc.
Donc, la navigation, combien de temps pour faire ce passage du Drake?
On a mis 3 jours.
Il y a 3 jours, un peu plus de 3 jours, et il y a 450 000, un truc comme ça.
Ok. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était la machine à laver, donc?
Il y a beaucoup de houle de travers, ça je m'en rappelle, parce que je suis tombée avec une grosse vague.
Le début a été très sportif, parce qu'on est parti donc avec un bateau lourd, c'est-à-dire qu'un équipier supplémentaire avec du matériel. On avait 900 litres de gasoil, donc grossièrement 600 litres de plus que ce qu'on a habituellement
à bord. C'est ça qu'on t'a pas dit, c'est qu'on a récupéré des gros bidons.
Donc on avait des gros fûts de 200
litres. Des gros fûts de 200 litres qu'on avait mis de chaque côté.
Ah d'accord.
Là dans le cockpit. Hein.
Wow.
Ça fait partie de la préparation. Ouais, c'est de dire, moi, ce que j'avais, des gens que j'avais rencontrés donc en Guyane 12 ans avant, c'était eux, je me souviens de leur truc en disant, nous, le problème, c'est qu'on a eu mauvais temps pour revenir, et donc on ne pouvait pas traverser le Drake. On était obligé d'attendre 15 jours, donc 15 jours sans chauffage, parce qu'il leur restait juste de quoi traverser au moteur, parce que le drag, tu y restes pas, tu tires pas des bords, tu vas le plus vite possible pour traverser. Et donc, ils avaient gardé du gasoil pour traverser au moteur s'il n'y avait pas suffisamment de vent. Et donc, ils ne sont pas chauffés le bateau pendant 15 jours. Donc, moi, j'avais ça dans la tête, et de me dire, on part pour 5, 6 semaines, mais il faut qu'on ait de la bouffe pour 2 mois, qu'on ait du gasoil pour le chauffage et pour les moteurs, et que je garde encore 150 litres de gasoil pour faire la traversée en dernier.
Je relis le journal de bord. On est parti, donc, on a fait une escale à Puerto Toro, qui est donc côté chilien, avant de passer le Drake. Hein. Et donc après on est parti donc le 11 janvier, passage du Drake, vent arrière, 18 nœuds, vitesse 1 nœud en moyenne.
Mais au départ on est parti comme d'habitude, c'est-à-dire que tu pars fin de dépression, donc la mer elle ne se calme pas.
Ouais.
Et donc ça a été calme jusqu'à ce qu'on passe le Cap Horn. Et une fois
mer formée.
Le Cap Horn, la mer était bien formée. Donc le bateau, il marchait bien, sauf qu'il était hyper lourd. C'est-à-dire qu'on avait une tonne et demie supplémentaire. Mmh. Donc le bateau, il tapait de tous les côtés. Quoi. Là, tu as peur de casser. Tu as tendance à bien ralentir. Mais d'un autre côté, tu ne veux pas traîner. Donc, mais il fallait qu'on avance. Voilà. Donc ça, c'était la première journée. Quoi. Ouais. Après, ça s'est plus calmé, le vent était plus régulier.
Et le premier mouillage, donc on est arrivé à Melchior. On est arrivé de nuit, enfin il était minuit 30. Et tu arrives, et moi je me rappellerai toujours de cette impression, c'est que tu as un espèce de mur blanc en face de toi. C'est les icebergs, enfin, c'est la neige, tu as un plafond qui est très bas, tu as une ambiance, tout de suite tu rentres dans une ambiance particulière. Tu arrives, tu as l'impression que tu vas foncer droit sur les icebergs, puis après tu trouves ton chemin, etc. jusqu'au mouillage, et heureusement on avait les cartes détaillées.
J'allais demander justement, mais quelle carte marine vous avez utilisée là-bas?
Alors,
qu'est-ce qui peut être précis?
Il y a des cartes marines qui existent. Le problème c'est que les cartes papier coûtent cher. Donc on avait des cartes de certaines zones. On avait une application qui s'appelle Icelor, qui est la seule qui avait les cartes de l'Antarctique. Donc ça nous permettait de nous positionner sur la tablette. Voilà, il y avait
mis sur l'ordinateur.
Il y avait des...
Bah, déjà que Poupon t'avait donné...
Quand tu arrives à Ushuaïa, tout le monde te donne le même truc. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des navigateurs depuis des années qui font des mouillages et qui te font des croquis à main levée pour te dire où tu mets tes amarres, voilà. Sur quel rocher, à quel endroit, etc. Voilà. Alors, c'est bien. Ça dépend le type de bateau que tu as, ça dépend de la météo que tu as, ça dépend des icebergs. Mais voilà, au moins tu as, nous on devait avoir une vingtaine ou une trentaine de croquis de mouillage et où on pouvait théoriquement aller. Le problème c'est que c'est la saison des charters et que les charters, ben, ils utilisent déjà, ils connaissent bien les endroits, et puis quand on est arrivé
Meilleurs mouillages, ils y vont, ils les connaissent, ils y vont direct.
Quand on est arrivé à minuit, ben, la crique dans laquelle on se disait...
Trois charters.
Il y avait des bateaux qui étaient dedans, et donc on ne pouvait pas, puis on ne connaissait pas, puis c'était minuit, c'est-à-dire que les gens dormaient à cette heure-là, on ne pouvait pas faire toc-toc et leur dire, bon, vous pouvez vous pousser, on peut se mettre à couple, etc. Parce que généralement, les bateaux se mettent à couple, sont déjà amarrés à terre, mais il faut connaître, parce que nous, on s'est fait peur sur plein de mouillages. Quoi.
Se mettre à couple, c'est, on rappelle ça, quoi, c'est se mettre bateau, les deux bateaux, un contre l'autre.
Ouais, voilà.
Et puis c'est deux, c'est trois, quelquefois. Donc,
voilà, donc le passage du Drake, c'est fait. Vous voilà en Antarctique. Donc, quelles sont vos premières impressions quand vous arrivez là-bas? Christine, déjà tu as dit là, l'arrivée
ouais,
vraiment,
c'est magique,
extraordinaire,
c'est un autre monde.
C'est vraiment, puis tu as cette impression d'être au bout du monde, et c'est une ambiance particulière. Déjà tout est blanc, alors c'est pas calme hein, parce que tu as le bruit de la glace qui craque de partout, hein, donc, mais c'est une ambiance, parfois tu as le plafond qui est bas, parfois tu as un grand soleil, il neige, il vente, il pleut, j'aurais du mal à... C'est magique, c'est un peu, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais dans le sens large du terme.
Est-ce que vous avez pu retrouver une vie sauvage, enfin,
Ah mais oui, complètement, mais t'es en communion totale avec la faune, avec la nature. D'ailleurs, tu te sens étranger, tu te dis, mais bon, on est là, eux, ils font leur vie, hein, que ce soit les otaries, les phoques, les manchots, ils font leur vie, ils ont sans faire attention à toi. Et toi, tu te sens un peu comme un étranger dans ce milieu qui est à la fois hostile, merveilleux. C'est autant hostile qu'admirable.
On sent que Christine est conquise. Hein.
Ah non, non, ah, oui. Non, non, mais c'est franchement, c'est quelque chose de... Tu me dirais demain, tu retournes en Antarctique. Alors, je ne retournerai pas avec Kea parce que c'était beaucoup de stress. Mais oui, parce que c'est extraordinaire.
Vous avez pu aller à terre assez facilement ?
Pas toujours, parce que des fois, les conditions météo ne sont pas là.
Ouais.
Il neige, il fait froid, il y a du vent. Tant qu'on a pu, on l'a fait. Donc après, les colonies de manchots, que tu t'approches, ils passent à côté de toi. C'est pareil, toujours dans le respect, si tu veux, de l'environnement, parce que c'est toi l'étranger. Donc,
de toute façon, tu as une règle de conduite qui t'est imposée théoriquement par les TAF, donc de respecter une certaine distance, de ne pas débarquer à certains endroits, etc. Donc ça, tu apprends, puis c'est naturel. On a la chance de ne pas être des touristes lambda, et donc de faire attention à la vie sauvage.
Mais tant qu'on a pu, on a été à terre, on s'est fait des petites balades.
Mais certains mouillages, tu as 20 mètres de glaciers qui sont à côté de toi. Quoi. Mmh. Donc, c'est des glaciers, c'est des parties stables, mais c'est à la fois impressionnant, mais tu ne peux pas débarquer.
Non.
Et tout à l'heure, tu parlais que tu n'y retournerais pas avec Kea parce que par rapport au stress. Est-ce que vous pouvez me parler maintenant de la réalité des choses, hein, d'accord ? Le monde était merveilleux, mais parce qu'on a déjà parlé avec vous de votre séjour en Antarctique, et toi, Dom, ce qui ressort, quoi, c'est le stress que tu as ressenti pendant le séjour là-bas.
Je dirais que tu n'es jamais tranquille. C'est-à-dire que les navigations ne sont pas forcément dures, mais tu te prends des coups de vent par moment pas possible, donc tu avances. Ouais. D'abord, c'est 90% au moteur. La voile, c'est hyper rare que tu puisses la mettre parce que soit il y a trop de vent, soit il n'y en a pas du tout. Mais tu es en vigilance permanente, c'est-à-dire qu'en navigation, tu es obligé d'être sûr que tu avances parce qu'il y a des fois, on s'est pris des bons coups de vent de face et on était obligé d'aller se protéger dans un mouillage, mais tu es obligé de faire tes 20 milles pour y aller. On n'a jamais eu de grosse mer, mais c'est quand même beaucoup de vent.
Tu as des rafales, moi je me rappelle, tu passes entre. Enfin, c'est des falaises comme ça, tu es obligé de passer entre ce couloir et tu as 40 nœuds de vent de face. Donc, tu es obligé de passer, d'avancer, tu as la glace, tu as les vents. Voilà, donc c'est quand même des conditions de navigation pas faciles.
Parce que même arrivé dans une baie ou au mouillage, hein, je me rappelle que nous avions raconté que même là, il faut être tout le temps vigilant.
Jamais.
Tu vois, le deuxième mouillage, alors, quand on est parti de Melchior, on a voulu aller, il y avait un mouillage qui nous était recommandé. Alors on est arrivé, il y avait un grand ciel bleu, c'était magnifique. Mais tous les trois, on s'est regardé avec l'équipier, avec Olivier. On s'est dit, on voyait des packs de glace au-dessus de... Tu sais, c'était une petite baie et là... La glace était en surplomb comme ça. On s'est dit, non, on va pas dormir là. Tu as l'impression que ça va s'écrouler sur ton bateau d'une minute à l'autre. Donc, on est parti. On a été à Cuverville, à un autre mouillage pour passer la nuit. On a passé une nuit horrible parce que l'ancre, ça ne tenait pas. Les sols ne tenaient pas. Donc, le vent s'est levé. En plus, le vent change tout le temps.
Les amarres n'ont pas tenu.
Les amarres n'ont pas tenu, ont lâché.
Parce que c'est difficile, les rochers sont au ras de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de marée, mais il y en a quand même, comme c'est des amarres flottantes, si ça flotte de trop, les amarres foutent le camp. Ça, c'est aussi manque d'expérience, les skippers, ils ont des câbles pour mettre autour des rochers, d'abord pour éviter que ça cisaille les amarres, mais aussi ça leste un petit peu et ça permet de maintenir la mare. Un peu plus profond, mais il faudra avoir de la chaîne. Mais c'est pareil, déjà les câbles, ils se prennent sous les rochers, et quelquefois, ils sont obligés d'abandonner les câbles parce que c'est coincé.
C'est coincé
quand ça tire vraiment, quand il y a des grosses rafales, ça tire, ça passe dessous les rochers. Hein. Donc ça, c'est toujours l'angoisse. Et effectivement, ce deuxième mouillage, on a le vent à tourner dans la nuit. Alors le problème des mouillages, c'est que tu es souvent protégé dans un sens des glaçons, parce que c'est les glaçons qui sont le problème, des
oui,
icebergs et des
gros leurs. On va rappeler quand même que Kea est un bateau en polyester, quoi.
Oui, mais même pour les autres bateaux en acier ou en aluminium, le problème est le même. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec un pack de glace qui envahit ton mouillage, tu ne peux plus partir. Et puis, tu es tassé, et si le vent ne s'inverse pas, tu endommages quand même ton bateau. Hein. C'est pas évident. Donc, normalement, dès qu'il y a un risque de rentrer de packs de glace à l'intérieur de ton mouillage, il faut partir.
Est-ce que la météo est prévisible ou comment ça se présente?
Totalement. La météo, enfin on avait Weather 4D, là c'est hyper précis.
Avec l'iridium, c'est deux fois par jour, trois fois par jour. Enfin, alors il existe une carte des glaces qu'on a fini, on nous a passé un lien. Qui est réactualisé tous les 4 jours à peu près, deux fois par semaine à peu près.
Ouais. 4, d'accord, 5 jours. Et qui indique la dérive des...
Ben voilà,
ouais,
qui te dit
les gros packs
et tout. Le problème, alors la météo, oui, s'il neige, il y a du vent, s'il y a une dépression qui arrive, oui, il faut que tu... Par exemple, par moment, on savait qu'il y avait du vent qui allait arriver, donc il fallait qu'on se mette de tel côté, enfin, qu'on se protège un peu du vent. Mais c'est la glace. C'est la glace, le problème, en Antarctique. C'est surtout ça.
Qu'est-ce la était... glace et la tenue des mouillages.
Quelles étaient les conditions de vie, quelle température vous avez à l'extérieur et dans le bateau?
La nuit, ça descendait peut-être à moins 2, moins 3, mais on n'a pas eu des gros coups de froid.
Oui, c'est pas extrême quand même.
À cette époque de l'année, ce qu'il y a, c'est que quand c'est le vent. Quand tu as du vent, le ressenti, quand tu as la neige, quand on naviguait. Tu sais, ils naviguaient avec des lunettes de ski, quoi.
Des masques de ski. Ouais.
Parce que tu te prends tout dans la figure. Nous, Kea n'est pas adapté pour ça. Dans les monocoques, tu as des coques protégées, etc. Où tu peux... Mais là, on n'est pas du tout. On est au vent et de tout, tu vois, là.
Vous avez eu des conditions qui vous imposaient d'aller casser la glace, par exemple, à l'extérieur? Parce qu'on voit on avait vu des images de bateaux.
Non, on a...
On s'est toujours arrangé pour ne pas faire ça.
Non, on n'a pas eu des conditions extrêmes. On a eu de la neige. Donc
on a quand même enlevé la neige. On avait 20 cm de neige sur Kea, c'était impressionnant.
Mais les conditions de journée étaient correctes, c'est-à-dire que ça ne descendait pas en dessous de zéro. Entre 0 et 10 degrés, 12 degrés peut-être. Et à l'intérieur du bateau, on avait...
12, 14...
La nuit, pas beaucoup, mais on montait
à 16. Le matin, on se levait, il faisait 6 degrés quand même. Quand on se levait, il faisait 6 degrés.
Et là-bas, je crois que vous avez rencontré des bases, des scientifiques, c'est quoi?
On est quand même descendu jusqu'à 65 degrés sud, c'est ce qui était assez bas quand même pour un catamaran. Je crois qu'on est l'un des seuls catamarans à être descendu aussi bas, d'après ce que nous disaient les gens à Ushuaïa. C'est la base Vernadsky, c'est la base ukrainienne. Alors, on connaît l'histoire de l'Ukraine en ce moment, donc eux, ils étaient bien là-bas, ils disaient qu'ils étaient mieux dans leur base qu'en Ukraine actuellement. Ils avaient un alambic, ils faisaient leur alcool eux-mêmes, ils nous ont fait visiter la base, c'est des bases scientifiques, essentiellement, donc ils s'occupent de tout ce qui est l'étude des manchots, notamment des manchots papous. Et puis de la glace, de la fonte des glaces, de tout ce qui est écosystème.
Vous avez rencontré que des Ukrainiens?
Non.
Est-ce qu'il y a des Français là-bas?
Non,
les Français sont de l'autre côté.
Ils sont de l'autre côté, ils sont pas dans la péninsule. On a rencontré il y a deux bases espagnoles qu'on a rencontrées. Et les Argentins, c'était trop drôle parce que on est arrivé, on pensait que la base était déserte, il n'y avait rien, aucune activité en plein jour. Donc on se balade, il y avait plein de manches au papou partout et tout, puis on voit des habitations. Nous, tu sais, on essaye de regarder un peu comment ça se passe.
Il y avait un groupe électrogène qui marchait.
Et j'entends un groupe électrogène, je me dis tiens, c'est bizarre quand même. Puis je vois une porte, je prends la porte, j'ouvre. Et là, une chaleur, de la moquette, c'était tapissé partout. Et là, je vois un gars arriver, les cheveux hirsutes, avec des grosses pantoufles en pyjama. En fin de compte, ils sortent, c'était des Argentins, mais ils ne bougeaient pas de leur base. ils étaient là, je pense que c'est pour occuper le sol.
C'est une présence.
Voilà, mais pas pour... ils faisaient aucun... Eux, par contre, ils faisaient aucune étude scientifique.
Ils étaient nombreux, en plus.
Oui, ils étaient nombreux, ouais. Donc ils sont venus nous voir, ils nous ont appelés à la VHF parce que on s'est protégé parce qu'il y avait une grosse dépression qui arrivait. Donc on s'est protégé et à partir de... Donc on arrive, si tu veux c'est une espèce de petite crique, tu rentres, t'as quoi déjà t'as très peu pour passer.
Il y a un seuil à 2 mètres.
Ouais. Et il y a un seuil à 2 mètres, donc tu vois tu passes à marée haute et tu te protèges comme ça. Mais t'as des rochers après partout. Hein.
Glacier et rocher.
Et donc, on arrive vite pour se protéger. On essaye de mettre une amarre. La amarre tient pas. On dérape. Et là, le vent monte. On met une amarre fixe. On met la chaîne, enfin l'ancre et l'amarre comme ça avec le poids de doigt, de face. Parce que le vent arrivait comme ça. Mmh. Et donc, de 4h de l'après-midi jusqu'à 3h du matin, on a eu au minimum 70 nœuds de vent.
D'accord.
Donc là, j'ai cru que... Alors là, c'était terrible.
Puis vent tournant. Hein.
Ça tournait
problème,
dans tous les sens.
Tu faisais 90 degrés voilà. D'un seul coup, et puis la mer fumée. Tu te dis bon...
Et à la VHF, les bases nous appelaient. C'est bon, vous n'avez pas de problème. Parce qu'eux, ils enregistraient, ils ont une base météo avec un météorologue. Ils enregistraient des vents à
170
km/h. Donc, on était... là, tu subis. Hein. Tu subis pendant plusieurs heures... T'attends que ça se passe, t'as le bateau qui fait ça, on a cru que le bimini allait s'envoler, il s'arrachait, on a dû lui mettre des sangles.
Enfin, c'est un bimini rigide. Hein.
Ouais, c'est un bimini rigide, le panneau, là, les panneaux solaires.
Le bimini, c'est la protection qu'on a à l'extérieur du bateau. Hein.
Les panneaux solaires que tu vois sur les bossoirs, là, c'est pareil, on a dû les renforcer parce qu'on a cru que ça allait s'arracher. Et puis tu es là, t'attends, et t'as l'eau qui fume autour de toi, et puis t'as le bateau qui vibre dans tous les sens, et t'es là, tu dis...
Tu te dis, bon, c'est 11h normalement où ça baisse, c'est à 11h où ça doit baisser.
Et ça baisse pas.
Ça a baissé.
Ouais, mais tout doucement. Là, c'était...
Mais après, quand tu passes à
40, on était tous les deux, là, on bougeait pas, tu vois, on était comme ça.
Le gros est passé.
Après, oui, quand ça descend à 40 nœuds, c'est rien du tout.
Et je crois que c'est le seul mouillage où on a tenu sur l'ancre. Après, il est resté.
Ça, c'était notre grosse frayeur avant de repartir.
Donc là, on était juste avant le départ, quoi.
Ouais, 2 jours avant le départ, parce qu'on attendait, on voyait. Donc cette dépression est passée, on a attendu qu'elle passe et que la mer descende, parce que tu avais quand même des creux de 8 ou 9 mètres.
D'accord.
Donc on s'est dit, bon, non, on n'a pas envie. Hein. C'est franchement. Donc on a attendu que la mer se calme un petit peu, et on a une fenêtre nickel chrome de 4 jours. Et là, on est remonté au moteur. Là, pas la voile.
On s'en fout, full speed.
Après la dépression, plus de vent. Quoi, et...
Enfin, du vent, toujours. Tu as du vent, mais de toute façon, tu l'avais auprès. C'était pas... Et on avait beaucoup moins de mer. On avait de la mer, mais beaucoup moins de mer. En fin de compte, on a eu...
Bon, on avait de la voile,
on mettait les voiles, mais avec... on s'est dans du moteur. Et on a re-eu du vent quand on est arrivé au Cap Horn. Ceci dit, quand on est arrivé près d'une base espagnole aussi, on a eu le même problème. On avait un problème avec l'iridium, donc on ne pouvait plus choper de météo, plus rien. Donc là, ça commence, c'était un problème. Parce que si tu n'as pas de météo en Antarctique, un peu... voilà. Donc, on leur a demandé de l'aide. Et donc, ils nous ont fabriqué un système pour recharger. En fin de compte, on n'arrivait plus. C'est le connectique de l'iridium qui était foutu. Cassé. Et donc ils nous ont fabriqué un chargeur à part pour la batterie. Mais au départ ils voulaient pas qu'on débarque. Ils disaient, non, vous n'avez pas le droit, c'est une base militaire et scientifique, donc on n'avait pas le droit de débarquer. On leur explique, mais finalement ils sont venus nous chercher, ils ont été adorables, ils nous ont fait visiter. Enfin, après tu sais, c'est des gens qui sont là-bas en autarcie pendant, ils y sont qu'en été, hein. Souvent c'est des bases qui sont fermées pendant de mars à novembre, c'est des bases qui sont fermées. Mais donc, ils sont quoi, une trentaine, voilà.
Et des gens comme vous qui vont
après nous, alors pendant qu'on y était, on n'en a pas rencontré, c'est que des charters. Et après nous, on sait qu'il y en a un qui a été. Après, on a rencontré des gens en Falkland, mais eux, ils avaient l'habitude de faire des charters. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des lambda.
Les deux jeunes.
Mais il y en a très, très peu.
Il y en a très peu. Hein.
Comment vous étiez perçus par les charters? Vous, déjà en tant que particulier, d'être venu là, et puis en plus avec ce type de bateau.
Alors, au départ, quand on était à Ushuaïa, quand on a dit qu'on voulait descendre en Antarctique, il y en a un notamment qui fait des charters et tout, il me dit, mais vous êtes malade avec un bateau en plastique, et le Drake, c'est une machine à laver, et il y en a qui sont jamais revenus, et vous allez... Enfin, tu sais, il nous adresse un tableau. Ouais. Alors déjà, t'es comme ça, tu vois que t'es pas tranquille pour descendre et tout, tu te... Parce que le passage du Drake, c'était quelque chose déjà qui nous angoissait, Cap Horn et compagnie, quoi. Et le mec, il t'en rajoute une bonne couche. Donc, mais c'est le seul. Ouais. Mais les autres, ils ont dit non, ils nous ont passé les cartes, ils sont venus sur le bateau, ils nous ont dit bah, tu peux aller là, ils nous ont aidés, au contraire, viens là, tu peux aller là, tu peux aller là. Voilà, c'est comme dans la vie terrestre, c'est comme partout, tu as des gens qui sont très sympas, mais globalement, on n'a pas été mal perçus.
Non, je bien pense au contraire, pas, hein. au retour ouais. on a sympathisé avec plein de...
Ils nous ont dit chapeau parce que déjà on est descendu très bas. Donc
on a eu la chance.
On a eu la chance de pouvoir descendre très bas.
C'était, alors là, je ne sais pas s'il faut dire chance, mais parce qu'il n'y avait pas de glace. Donc pas de glace, ça veut dire réchauffement climatique. Donc voilà. Mais,
pour remonter, c'était plus compliqué quand même.
C'était plus compliqué pour remonter. Descendre, mais on a eu cette chance de pouvoir descendre sans aucun problème jusqu'à Vernadsky. Donc ça, c'est bien.
Bon, tout votre récit là quand même, ça me renvoie à toutes ces histoires, enfin, les livres qu'on a lus, je pense d'ailleurs à Ernest Shackleton là, qui a fait son expédition dans le Grand
Sud. On a lu beaucoup de...
Et ces gens-là qui, eux, sont partis là-bas
sans rien, déjà, avec
du matériel. Ouais.
Là ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce qu'on a lu les récits d'aventure comme ça.
Voilà. C'était des expéditions.
Et au même titre, on a rencontré au Falklands, on a rencontré un couple de navigateurs et lui, il est descendu en autarcie totale, seul, pendant un an. Et il est descendu...
À Pleno.
À Pleno.
Il s'est mis en autarcie à Pleno.
Et vers la base Charcot. C'est chapeau, parce que c'est il y a... Il a notre âge, et enfin il a mon âge, ouais. Ou quasiment, et donc il y a 40 ans de ça, enfin il avait 20 ans quand il est descendu. Ah, ouais. Et là, c'est chapeau. Parce que c'est sextant, c'est je me débrouille sans météo, etc., etc. C'est-à-dire que là, il faut être...
Ah non, mais tant qu'on était en Antarctique, on n'a pas arrêté de penser à ces explorateurs, justement, à Shackleton, à Charcot, qui sont venus, parce que ça, tu te dis, mais les conditions, à l'époque, ne sont pas du tout celles que nous, on a vécues. C'est-à-dire que c'est surtout tout ce qui est matériel, tu vois, où... Bon, point de vue météo, au point de vue chauffage, au point de vue... enfin, tout, quoi, c'est...
Oui, et puis il y a des retours d'expérience qu'on a en permanence. Ouais, ouais.
Ils n'avaient pas la cartographie que
là,
vous aviez vu.
C'est eux qui ont fait la cartographie, et qui faisaient ça à l'époque. Enfin, c'est incroyable.
C'est comme pour l'expérience qu'on a en ce moment en tant que navigateur. La navigation est relativement facile maintenant, parce que tu as la météo, tu as les cartes marines, tu as deux tablettes.
Tous les retours d'expérience.
Et donc, c'est beaucoup plus facile. Tu fais plus du sextant, tu as ta position hyper précise maintenant. Donc, on est des petits joueurs. Donc, ça n'empêche le stress qu'on a vécu, même avec tout cet acquis. C'est que ceux qui l'ont fait 40 ans avant nous, 50 ans avant nous, 60 ans avant nous, chapeau. Quoi.
Oui, puis Kéa, c'est notre maison, quoi. Donc, s'il arrive quelque chose, tu vois, si on coule, c'est un peu compliqué, quoi.
Donc là, on est en Martinique maintenant. On est début décembre, 1er décembre. Est-ce que vous savez vers où va se tourner l'étrave de Kéa?
On ne sait pas trop, on a des bonnes idées.
On a des idées pour le départ. Après, le reste n'est pas décidé pour la suite. Mais, là, on va rester quelques mois ici. Et après, il y a deux endroits où j'aimerais bien retourner. Et Christine est d'accord avec moi. On garde un très bon souvenir de Cuba. Donc, d'aller faire un petit tour là-bas. Et après, je garde aussi un super souvenir de New York.
On a bien envie de faire l'arrivée dans la baie d'Hudson, enfin, tu vois, avec Kéa.
Je me rappelle avoir, enfin, quand j'ai mouillé au pied de la statue de la Liberté il y a une douzaine d'années, c'est quand même quelque chose de magique. Et j'avais passé un mois là-bas, c'est quand même une belle expérience. Après, j'ai des envies, mais on a, on verra ce qui se passe.
De toute façon, il a toujours des envies, mais de toute façon,
moi, j'ai encore
jamais il va s'arrêter. Hein.
J'ai encore un petit... des envies. Enfin, j'avais dit que je voulais aller à Saint-Pierre-Miquelon, j'y suis pas allé, je suis passé juste à côté quand je suis allé aux îles de la Madeleine, et puis d'aller faire un tour.
Au début, on voulait faire Saint-Pierre-et-Miquelon, point de vue du Groenland, l'Islande et la Norvège.
Voilà. De toute manière, si on repasse au début du podcast, il y a beaucoup de graines qui ont été plantées sur toutes ces années de navigation. Voilà. Quoi, et donc là, tout ça pousse.
Exactement.
Et pousse qu'il y a justement vers des horizons.
Voilà. Mais bon, la navigation s'arrêtera dans quand même pas si longtemps que ça, parce que moi, ça fait... Donc un certain nombre d'années que je suis en mer et que j'ai envie de me poser un moment. Là pour l'instant non, mais je pense que ça ne me posera pas de problème de nous poser quelque part en métropole.
Voilà. Ben, je crois que vous nous avez fait passer un sacré bon moment. Nous, en tout cas, on s'est régalé sur votre récit.
Merci beaucoup de nous partager
ça. C'était assez impressionnant, mais voilà, vous l'avez fait. Est-ce que les auditeurs peuvent arriver à trouver des informations sur votre voyage en Antarctique? Est-ce que vous avez un blog? Est-ce que vous avez
Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle Voyage Kea, sur laquelle je vais mettre justement le lien, parce que je ne l'ai toujours pas fait, mettre le lien de la vidéo. On a fait une petite vidéo sur notre voyage en Antarctique.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Ce lien, est-ce que tu peux nous le dire comme ça, ou on le retrouvera sur la page Facebook alors?
Ouais, sur la page Facebook Voyage Kea.
Tu peux rappeler la page Facebook?
Voyage Kea.
D'accord.
K-E-A.
Je sais que tu avais tapé catamaran Antarctique et que tu tombes sur
Outre-mer. Outre-mer a fait un article.
Outre-mer a fait un article sur votre voyage là-bas.
Bah, c'est-à-dire qu'on leur a communiqué les informations. Ils ont fait un bel article.
Ouais.
Voilà. Donc voilà, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce fabuleux voyage en Antarctique de Kea. Eh bien, on vous remercie.
Bah, c'est nous qui...
C'est nous qui vous...
Merci beaucoup pour ce moment. Quoi. Vous avez fait bien voyager.
Bien voilà.
Vous étiez la pépite qu'on avait sous le coude, dont on vous a parlé lors du podcast avec Nadine Frigo. Parce qu'on n'avait pas d'enregistrement sous le coude. Mais on savait qu'on avait Kea qui était pas loin. Et on est ravis parce que cet entretien a été extra. Quoi. Merci beaucoup.
Ben merci à vous. Ça nous a fait revivre aussi notre expérience, parce qu'en parlant, on revoit les images et les sensations qu'on a eues.
Merci beaucoup, ouais. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Well, you flew to New Orleans to rent a car and to see your friend, to put him in the hospital. Second floor, right across from the radio bar. No food in the fridge, I guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass, takes a lot of minutes.